RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. À la une de cette édition, la disparition d'une grande voix du Mali. Amadou Bagayoko, membre du légendaire duo de musiciens aveugles Amadou et Mariam, est mort à Bamako. Il avait 70 ans. Nous y reviendrons en début de journal. En Centrafrique, une manifestation à Bangui contre un éventuel troisième mandat du président Félix Archange Touadéra aux élections de décembre prochain. Dans l'océan Indien, les habitants de l'archipel des Chagos demandent la fermeture de la base américaine de Diego Garcia après les récentes tensions entre les États-Unis et l'Iran. En RDC, 28 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, selon les projections de l'IPC, soit 40% de la population. Et puis les sports, l'athlétisme avec le lancement officiel du Grand Slam Track à Kingston en Jamaïque avec plusieurs athlètes africains dans les starting blocks. Le Mali pleure ce soir la perte de l'un de ses plus grands artistes, Amadou Bagayoko, membre emblématique du célèbre duo de chanteurs non-voyants Amadou et Mariam. Le titre Sabali en ce moment sur RFI, l'un des titres emblématiques du couple, un couple mondialement connu. La disparition d'Amadou Bagayoko a été confirmée dans la soirée par sa famille et c'est une grande perte pour le Mali bien sûr, mais aussi pour le monde de la musique. Et l'émotion est vive, Serge Daniel.
C'est une grande perte pour le monde de la musique. Amadou Bakayoko était membre du célèbre duo musical d'aveugles, Amadou et Mariam, et il est donc décédé ce mercredi à Bamako, précise sa famille. Il était alité depuis un moment, et comme son épouse, il était aveugle. Il est né en 1954, il a perdu la vue à 15 ans, il a rencontré sa future épouse à l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako, où il jouait dans un orchestre. Alors, il ne tarde pas à former le couple à la scène qu'on connaît, le couple à la scène comme dans la vie, avant de se marier. Et puis, depuis les années 2000, c'est la notoriété aux côtés de son épouse, des prix, des médailles, notamment en France, du monde à leur spectacle, parmi leurs albums connus, Dimanche à Bamako ou encore Folila. Amadou était un dieu de la guitare également. C'est une grande perte pour le monde. On se souvient de leur prestation aux cérémonies de clôture des Jeux paralympiques de Paris. Et c'est vraiment le deuil à Bamako et dans une grande partie du globe.
Voilà Serge Daniel, beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions. Je vous invite à lire sur RFI.fr, sur notre site internet, un article très complet et truffé d'anecdotes. Amadou et Mariam qui ont été prix découverte RFI, c'était en 1982. Bien plus tard, en 2005, ils ont reçu le prix du meilleur album World de l'année des Victoires de la Musique. Et puis le duo, également joué en l'honneur de Barack Obama, c'était lors de la remise de son prix Nobel de la paix à Oslo en 2009. Loïc Bussière a joint Cheikh Tidiane Seck, fer de lance de la musique mandingue, ami d'enfance d'Amadou Bagayoko, avec lequel il a joué au sein du groupe Les Ambassadeurs du Motel de Bamako, c'était dans les années 70.
Amadou était curieux de tout. Je me souviens, on écoutait même toute la musique, disons la musique de l'Éthiopie, du Soudan. Et on n'avait pas de barrière. On écoutait les Stones, on écoutait les Zeppelin, on écoutait tout ce qui est la grande old black music ensemble, Amadou. Donc c'est Amadou là. Et c'est ça qui a forgé sa personnalité et son jeu de guitare. Il avait ce blues toute notre enfance, même avec nos guitares de fortune. Et il avait ce toucher et il peut être dans l'histoire de l'afro-pop, un des vaillants ambassadeurs qui a justement amené ce style particulier un peu partout, comme son aîné Farka Touré ou Zani Diabaté. Amadou, c'est bon, il n'y a pas de mots pour le définir en fait, en réalité.
Voilà, Cheikh Tidiane Seck avec Loïc Bussière. Pas de mots non plus hein, pour Youssou N'Dour. Il l'a dit sur le réseau X, je ne trouve même pas les mots pour parler d'Amadou Bagayoko. Mais pensez à sa chère Mariam, à qui je pense en ces moments difficiles. Je n'oublierai jamais son amitié, dit la star sénégalaise. J'ajoute également la réaction à Bamako de l'éveil patriotique de la jeunesse malienne. Avec Mariam, il a chanté l'amour, l'espoir et l'Afrique aveugle mais visionnaire. Silencieux mais puissant, un artiste, un symbole, une lumière. Merci pour tout, Amadou Bagayoko. Ton nom et ta guitare résonneront jamais, à jamais dans nos cœurs. Direction à présent la Centrafrique où plus d'un millier de personnes ont manifesté ce matin sur l'avenue Barthélémy Boganda à Bangui. Cette marche pacifique organisée par les opposants réunis au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution avait pour objectif de protester contre un éventuel troisième mandat du président Faustin Archange Touadéra. Protestation également contre les conditions de vie difficiles des populations. Reportage Rolf-Steph Domiale.
Dès 7h du matin, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Mais dans la main, ils ont défilé sur l'avenue Barthélémy Boganda, encadré par la police et les casques bleus. René Constantin est l'un des manifestants.
Septième République, il n'y a pas l'eau. Septième République, il n'y a pas le courant. Le facteur du développement d'abord, c'est l'électricité et l'eau. Mais s'il n'y a pas l'eau, c'est la mort.
Couvert de sueur, ce manifestant s'oppose à un éventuel troisième mandat du président de la République.
Karl Blagué, coordonnateur national du groupe d'action de la société civile. La majorité de la population centrafricaine n'a pas accès à l'eau, il y a la cherté de la vie. Bref, le minimum vital, hein, c'est une partie de la population qui s'est exprimé ce matin. Il va falloir qu'il puisse réfléchir à deux fois avant de se présenter une nouvelle candidature.
Aux environs de 8h30, le cortège s'est arrêté au monument Barthélémy Boganda. Les principaux leaders ont pris la parole pour délivrer un message identique. Martin Ziguélé est le porte-parole du BRDC.
90% des personnes qui ont marché ce matin, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes. La jeunesse est consciente de son sort. Aujourd'hui, on veut utiliser un rouleau compresseur composé de Russes, de Wagner, de requins pour l'intimider. Ce troisième mandat-là est impossible.
Initialement interdite par le ministère de l'Intérieur, cette marche a finalement été autorisée par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Rolf-Steph Domiale, Bangui, RFI.
En bref, le missionnaire britannique de 83 ans et son assistant qui avait été enlevé le 1er avril au Cameroun par un groupe armé dans la région anglophone du Nord-Ouest ont été retrouvés sains et saufs. C'est la communauté catholique du missionnaire qui l'annonce sur son site internet. Tous deux ont été libérés jeudi. Ils se rendaient sur un chantier de construction d'une école lorsqu'ils ont été kidnappés près de Bamboui dans le département de Touba. Et toujours à propos du Cameroun, jeudi, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant les violations des droits des journalistes par les autorités. Le Parlement européen appelle Yaoundé à garantir la liberté de la presse à l'approche de la présidentielle d'octobre. Les députés européens demandent la libération immédiate et sans condition d'Amadou Vamulke, Kingsley Djoka, Mancho Bibixi, Thomas Awa Junior et Tsi Conrad. Le Parlement appelle les différents États européens à exercer des pressions diplomatiques et économiques sur le Cameroun pour améliorer le respect des droits humains dans le pays. En RDC, la malnutrition s'est aggravée ces derniers mois. C'est ce qu'indiquent les projections de l'IPC, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Selon l'organisation, près de 80 millions de Congolais sont touchés par une situation d'insécurité alimentaire et 28 millions ont besoin d'une action d'urgence. À Kinshasa, Pauline Azidi.
Face à la crise actuelle qui touche la RDC, l'IPC a dû revoir ses projections à la hausse. En octobre 2024, elle estimait que près de 25 millions de personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays en 2025. Finalement, elles sont près de 28 millions, c'est-à-dire presque un habitant sur quatre. Et l'organisation de prévenir, si rien n'est fait, ce chiffre pourrait encore continuer d'augmenter et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations se détériorerait davantage. Près de 51 millions de personnes sont en effet en situation de stress alimentaire, le niveau qui précède l'urgence. Une situation qui touche quasiment l'ensemble des provinces du pays et pas seulement celles en proie aux conflits armés. Par exemple, plus de 34% de la population du Tanganyika est en insécurité alimentaire. interaigu, 29% pour celle du Kassai central. Et les humanitaires manquent d'optimisme pour les mois à venir. Plusieurs programmes de lutte contre la malnutrition sont actuellement à l'arrêt en raison du gel des financements américains, confie l'un d'eux, qui prévient que les financements européens ne suffiront pas à combler le manque. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Port-Louis, 93.2 FM.
Dans l'océan Indien, les habitants de l'archipel des Chagos demandent la fermeture de la base américaine de Diego Garcia. Ce vendredi, une vingtaine d'organisations a manifesté à Port-Louis pour exiger sa fermeture. Et ce, alors que la tension est montée d'un cran cette semaine entre les États-Unis et l'Iran. Le régime en place à Téhéran a annoncé qu'il envisageait de bombarder cette place forte américaine située dans l'archipel. Les manifestants dénoncent une menace pour la paix régionale et réclament un océan Indien démilitarisé. C'est un reportage d'Abdullah Erali.
Fermez la base de Diego Garcia, rendez-nous les Chagos. Ces slogans ont résonné à Port-Louis lors d'une marche qui a regroupé 21 organisations mauriciennes. Les manifestants craignent un conflit régional si une guerre éclate entre les États-Unis et l'Iran. Henri Marimoutou, membre du mouvement contre la guerre.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu de grande bataille dans l'océan Indien. Mais maintenant, la guerre est à nos portes. La guerre est menée à partir de notre territoire des Chagos, de notre territoire de Diego Garcia.
Base militaire !
Alain Avi, un des organisateurs de la marche, observe que la base de Diego Garcia se prépare à des opérations militaires.
Nous savons tous qu'il y a des bombardiers B2 et toute une armada qui se positionne sur Diego Garcia. Selon les observateurs, il prépare clairement des attaques au Moyen-Orient.
L'idée d'un océan Indien pacifique et démilitarisé a mobilisé des jeunes mauriciennes.
Moi, c'est Shama, j'ai 28 ans et on est là aujourd'hui parce qu'on ne veut pas de base militaire dans l'océan Indien. L'océan Indien est une zone de paix.
Alors, moi, c'est Shim, j'ai 31 ans. On ne veut pas de guerre dans nos eaux, on ne veut pas qu'il y ait du sang sur nos mains également.
Cette manifestation intervient alors que Londres a suggéré cette semaine que Donald Trump a approuvé la rétrocession des Chagos à Maurice, à l'exception de la base de Diego Garcia. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Dans l'actualité également, le Mali, après la condamnation à un an de prison ferme hier, jeudi, de l'opposant politique Sédina Touré, 9 militants de l'imam Diko ont été condamnés à un an de prison ferme pour attroupement illégal. David Baché.
Les 9 hommes voulaient accueillir l'imam Diko le 14 février dernier, journée prévue pour son retour d'exil à Bamako. Ce retour n'a finalement pas eu lieu, mais les 9 militants qui étaient sortis de chez eux ont été condamnés à un an de prison ferme pour attroupement illégal. Un an ferme, c'est plus que les réquisitions du parquet qui avaient demandé la relaxe pour certains d'entre eux et de la prison avec sursis pour les autres. Leurs proches, qui s'attendaient donc à une libération, même en cas de condamnation, après déjà un mois et demi de détention, ne cachent pas leur déception. Je suis dépité, confie l'un d'entre eux. C'est purement politique, déplore un autre, mais nous allons faire appel. L'influent imam Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, en exil depuis près d'un an et demi en Algérie, est devenu une bête noire des dirigeants militaires maliens, après avoir exprimé des critiques et dénoncé notamment une transition sans trajectoire. La CEMAS, organisation qui rassemble ses soutiens, a été dissoute il y a un an et plusieurs de ses membres ont été séquestrés par la sécurité d'État ou condamné en justice.
RFI vous écoute Afrique Soir, 23h43 à Libreville, à l'approche de la présidentielle du 12 avril au Gabon. RFI donne la parole aux 8 candidats en lice ce soir. Stéphane Iloko Boussingui, un médecin âgé de 63 ans, l'un des anciens porte-parole du PDG, l'ex-parti au pouvoir qu'il a quitté après le coup d'État du 30 août 2023. Il a lancé la plateforme Ensemble pour le Gabon avec Alain-Claude Bilibinzé, également candidat. Et finalement, il a décidé de concourir en son nom propre, ce qui lui vaut d'être accusé de rouler pour le pouvoir. Aujourd'hui, Stéphane Iloko Boussingui dit vouloir soigner, je cite, un Gabon malade, notamment de la corruption.
Le Gabon est dans une situation chaotique, l'école est à genoux, il y a des coupures partout, j'habite une zone complètement sinistrée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, voilà. Je ne vais pas m'étendre, monsieur, le Gabon est malade et vous savez, le taux de corruption est très élevé, on peut accorder des marchés de gré à gré, des milliards et des milliards, non, le Gabon est malade, il faut le soigner.
Vous faites le portrait d'un Gabon en grande difficulté, d'un pays délabré. Pourtant, vous avez été pendant de très longues années au Parti démocratique gabonais. Est-ce que vous n'êtes pas aussi co-responsable de la situation ?
Je veux dire, sur le plan collectif, oui. je suis resté dans un parti qui pensait que la discipline était l'apanage du bon militant. Mais en réalité, c'était du trompe-l'œil, c'était de la poudre aux yeux. Bien sûr, j'étais dans la machine, tout à la fin, j'étais conseiller du président, porte-parole. Mais vous savez, même en France, quel est le rôle de conseiller? Il ne gère pas les caisses, ce qui est tout à fait différent du gouvernement qui est en charge, bien sûr, l'exécution de la politique du pays. Donc, ceux qui sont comptables de cette banqueroute, ce sont les gens qui ont siégé au gouvernement et on les connaît tous.
Alors, justement, vous avez suivi un ancien chef du gouvernement pour fonder Ensemble pour le Gabon, Alain-Claude Bilibinzé, et puis quasiment à la dernière minute, vous avez rompu avec lui pour vous lancer seul dans la course à la présidentielle. Pourquoi ?
Non, vous savez, Alain-Claude Bilibinzé, je ne veux plus parler de cette affaire parce qu'on me donne l'impression d'être quelqu'un qui est contre un compatriote. Je ne suis pas contre un compatriote. Je suis contre sa façon de faire. Il ne respecte pas les autres. Il n'a des yeux que pour lui. Et quoi qu'il dise, oui, bien sûr, il parle bien. Mais il va amener le Gabon où ? Moi, Ensemble pour le Gabon, c'était un bon groupe d'amis. J'ai même refusé de démolir ce groupe. Vous allez comprendre un jour que ma motivation est opportune.
Si vous êtes élu, vous promettez de jeter la constitution issue de la transition à la poubelle. Pourquoi ?
Monsieur, c'est une mascarade, cette affaire de constitution. Les gens n'ont pas été honnêtes. Ce sont des hypocrites. Monsieur Olivier Nguema n'avait pas besoin de cette constitution. Même pour lui-même, je pense que s'il est élu, en toute sincérité, il devrait la démolir. Moi, si je suis élu, je vais la démolir. D'abord, j'ai défendu le nom au cours du référendum. Un référendum marqué par un taux d'abstention, l'un des taux les plus élevés de notre pays. Et surtout, il y a eu une débauche de moyens financiers. C'est pas sérieux. On a corrompu tout le monde. Et parce qu'il fallait obtenir le oui, si je suis président, et d'ailleurs je pense pouvoir l'être, cette constitution, il faut la mettre à la poubelle.
Stéphanie Lokobou-Singui, candidat à la présidentielle au Gabon, propos recueillis par François Mazet, et vous pouvez réécouter l'intégralité des interviews des candidats dans un article spécifique sur notre site internet rfi.fr. On passe au sport, l'athlétisme, et c'est le lancement officiel du Grand Slam Track ce vendredi à Kingston en Jamaïque. Cette nouvelle compétition a été lancée par une ancienne gloire du sprint mondial, Michael Johnson. Elle est censée concurrencer la Diamond League qui réunit les meilleurs athlètes de la planète. Ce Grand Slam Track veut moderniser l'athlétisme et il a bien du mal à fédérer malgré la présence de plusieurs sportifs africains. Cédric d'Oliveira.
Ils sont 7 Africains parmi les 48 athlètes à avoir validé leur participation dans ce nouveau projet. Ceux qui sont sous contrat pour disputer les 4 étapes de ce Grand Slam Track. Et parmi eux, 3 Kenyans, le vice-champion olympique du 5000 mètres Ronald Kwemoy, la médaillée de bronze sur 800 mètres Marie Mora et la détentrice du record du monde du 10 km Agnès Ngetich. Le Zambien Muzala Samukonga, 3e du 400 mètres à Paris, va ferrailler aussi, ainsi que 3 athlètes éthiopiens. Des coureurs confirmés, mais les stars du continent n'ont pas répondu à l'appel de Michael Johnson, l'ancienne star du sprint aux 4 titres olympiques. Le Botswanais Letsile Tebogo en or à Paris sur 200 mètres ne sera pas à Kingston, tout comme la plupart des sprinteurs et sprinteuses à l'image de l'ivoirienne Marie-Josée Talou. La Kenyane Faith Kipyegon a également décidé de faire l'impasse de ce nouveau format très lucratif qui pourrait rapporter 100 000 dollars aux vainqueurs de chaque meeting. Peut-être feront-ils partie des invités un peu plus tard dans la saison. 48 challengers seront ainsi conviés par l'organisation qui va devoir convaincre, alors que la plus traditionnelle Diamond League, une sorte de ligue des champions de l'athlétisme, débute le 26 avril en Chine avec le premier de ces 13 meetings.
Cédric d'Oliveira. Et concernant le football, la commission anticorruption de Sierra Leone annonce l'ouverture d'une enquête contre 3 responsable de la Fédération Nationale de Foot, dont son président, tout cela sur une affaire de détournement présumé de 720 000 dollars entre 2021 et 2025. En Tunisie, la situation des migrants subsahariens devient de plus en plus précaire. Depuis le début des campagnes sécuritaires en 2023, le contrôle du travail clandestin s'est accentué. Beaucoup de migrants présents à Tunis, la capitale, ont recours à la mendicité. Cette situation préoccupe les organisations non gouvernementales des droits humains. C'est un reportage de Lilia Blaise.
À Tunis, dans un quartier de la banlieue nord, plusieurs migrants subsahariens attendent sur le trottoir au bord de la route. Selon les besoins en petit boulot, les clients viennent à ce rond-point et embauchent à la journée les premiers à se présenter, comme l'explique Samy, un migrant malien de 16 ans.
On attend du travail ici. Travail des chantiers, travail des jardins. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes là depuis quelle heure?
Depuis à 6h.
6h du matin?
Ouais.
Il est 10h et Samy attend encore. Ce phénomène est visible dans plusieurs endroits de la capitale, les migrants n'étant plus embauchés dans les emplois stables à cause des contrôles à répétition des autorités. Une situation de plus en plus difficile pour Abdallah, 25 ans et ivoirien.
Il y a beaucoup de problèmes parce que pour aller travailler même, ça fait peur entièrement.
Oui.
Parce qu'on n'a pas de papiers, il y a la police épée, t'as arrêté pour en prison.
Samy, 27 ans, migrant camerounais, est venu il y a 7 mois à Tunis pensant trouver du travail dans son domaine, la réparation d'objets électroniques. Il se retrouve à faire le berbécha, le collecteur de plastique. Il fouille dans les poubelles pour trouver des bouteilles à vendre ensuite à des dépôts de recyclage.
Quand je suis arrivé et que je suis allé dans des magasins d'électronique pour du travail, on m'a dit que ce n'était pas possible de m'embaucher. Du coup, je ne pouvais pas rien faire et rester à la maison. Je devais payer le loyer, ma nourriture. Alors je suis allé dans la rue et j'ai commencé ce travail.
Pour le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG tunisienne, la précarité des migrants est de plus en plus visible dans l'espace public. Elle a atteint un niveau alarmant, selon Ramdan Benhamor, porte-parole de l'ONG.
Maintenant, c'est remarquable le nombre des mamans avec accompagnés de leurs enfants sur l'espace public, parce que ces mamans-là n'ont pas la possibilité ni de travailler et ils sont obligés à sortir dans l'espace public pour chercher quelques moyens à vivre ou bien d'aide de la part des gens.
Il attribue cette mendicité de plus en plus visible à la criminalisation actuelle par les autorités des organisations de la société civile qui viennent en aide aux migrants. Très peu d'ONG peuvent encore travailler sur le terrain. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
La musique nous emmène au Tchad. À N'Djamena se prépare la deuxième édition de Tchad en scène. Elle a lieu du 8 au 11 avril. C'est une rencontre culturelle autour d'ateliers de formation, d'artistes émergents, de conférences sur les enjeux de la culture et de la création. Et les lauréats de la première édition se retrouvent sur scène accompagnés de l'artiste et musicienne tchadienne Matibé Geneviève. Nadia Ben Mafoud a suivi les préparatifs de ce concert très attendu.
1, 2, 1, 2. Chante, ma chérie. Tapis rayé au sol, mur insonorisé de tentures violettes et rouges, entouré d'instruments de musique en tout genre, c'est dans le studio d'enregistrement Oudourni Productions du quartier Mursal que nous retrouvons les artistes de Tchad en scène pour leur répétition. Matibé Geneviève est artiste musicienne. Elle est la directrice artistique de Tchad en scène, mais aussi la présidente de l'association culturelle Mitinga à l'initiative de l'événement.
L'activité va se dérouler en 4 jours. Donc il y aura les ateliers, il y aura des conférences, et puis il y aura un spectacle, un stand-up pour les humoristes. Voilà. On étend un peu parce que Tchad en scène, ça regroupe toutes les disciplines artistiques. Donc il y aura cette année l'humour qui va revenir sur scène l'année prochaine. Donc cette année, on a beaucoup mis en valeur la musique. Donc voilà pourquoi il y a eu une compétition de showcase, il y a eu une sélection de 4 artistes où on a fait un travail d'accompagnement artistique, voilà, qui vont se produire pour un concert de restitution.
Et donc là, on vous laisse faire les répétitions.
D'accord, merci beaucoup. Bon spectacle à vous.
Aux côtés de Matibé Geneviève, deux lauréats de l'édition 2024 de Tchad en scène, French Mercure est un jeune rappeur tchadien, il nous raconte son année de formation.
Avec Tchad en scène, j'ai eu l'occasion de me former et de définir ma direction artistique. Avant, j'étais beaucoup plus rap français, je dirais, mais Tchad en scène m'a permis de me réorganiser et de redéfinir ma direction artistique, que ce soit côté écriture, le côté vestimentaire, en fait, tout ce qui fait de moi un artiste, en fait, rappeur.
Chez nous, ici, il est un peu difficile d'avoir accès à des formations en tant qu'artiste.
Walbio, artiste, interprète et lauréat de la première édition de Tchad en scène.
Comment développer sa carrière, comment se prendre en charge artistiquement, comment se vendre artistiquement, et tout ce qui va avec le monde artistique, quoi. Le showbiz, qu'est-ce qui se passe là-bas, comment il faut faire pour percer. C'est vrai qu'il y a du talent, mais comment faire pour se vendre, Donc c'est toute une formation, ça a duré des mois.
Si ces lauréats font les louanges de cette initiative, la deuxième édition de Tchad en scène a failli ne pas voir le jour.
C'est très difficile le milieu culturel ou l'industrie culturelle au Tchad. Quand on a fini la première édition, on s'était dit que bon, on va laisser tomber parce que on a une idée, on veut le réaliser. Donc il faudrait avoir des gens qui adhèrent à cette idée, des gens qui comprennent l'idée, les gens qui puissent vous écouter et vous accompagner. Alors que au Tchad, on n'a rien à faire de la culture. On peut faire le tour de toutes les institutions, des ministères. On peut frapper dans toutes les portes, mais si ça n'intéresse personne, c'est-à-dire que voilà, vous vous retrouvez entre artistes, là, vous faites ce qui vous semble bon, ça ne dit rien.
J'ai voulu jouer une petite chanson. Une chanson pour dire bienvenue. Peut-être bienvenue à RFI aussi.
Wale, 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 wale. Wale onuma, onuma idal, idal senyadmo. Ireye tetai, mreye nandui, mudije koikmo. Wale, wale, owe.
Donc c'est pour vous dire bienvenue, bienvenue à, par anticipation à ceux qui viendront à l'Institut français le 11 avril. Quoi.
La femme sage bâtit sa maison dans un cœur intelligent repose la sagesse. Les projets que forment le cœur de la femme que tu charmes dans tes yeux d'amour. Oh, tu es belle femme africaine. Nakondo de Joba, Odo de Mundale, Nakoyel Gododa, Kabe Andumle, tu respires ma vie, Mama, Ito de Sirole, vers la sagesse.
Tchad en scène, c'est donc du 8 au 11 avril à N'Djamena, reportage de Nadia Ben Mahfoud. Merci de nous avoir suivis, merci également à toute l'équipe d'Afrique Soir, à la réalisation ce soir, Philippe Randria Nanténaïne. Merci également à Alexandra Brangeon et à Guillaume Bédrane. Restez à l'écoute, l'info revient dans quelques instants sur la Radio du Monde. Bonne soirée.
Bien sûr qu'elle s'est faite chasser de la cuisine de sa grand-mère à Cotonou. Ce ne sont pas les pâtes ou les jacks qui lui ont été transmis, mais la force, la volonté. Ce n'est pas une toque qu'elle a sur la tête, mais un feutre. The Woman King, Georgiana View, la première chef noire étoilée de France, est à notre table ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, avec Clémence Denavy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.